Mathieu Bocoté, salut, comment ça va?
Bonjour, ça va toi?
Très bien. Je suis en train de plonger dans un livre qui m'apparaissait rébarbatif au départ. J'aime pas les livres entretiens. Parce que je me mets des voix dans ma tête, puis je me fais jouer une espèce de dialogue dans ma tête, puis je cherche l'aboutissement d'eux. Mais je dois dire que on apprend énormément de choses dans ce qu'on pourrait appeler une biographie, mais sous une autre forme, avec quelqu'un qu'on connaît pas au Québec, qui semble être un de tes meilleurs amis, visiblement, Laurent Dandriot, qui te lance un éloge comme jamais personne n'a lancé d'éloge à quiconque. Waouh! Il te lance des fleurs, mon cher Mathieu, là.
Ben, c'est bien gentil. Alors, les livres d'entretien, en général, moi, j'aime bien ça parce que ça permet, c'est souvent une forme de rapport d'étape dans la vie de quelqu'un, soit un intellectuel, soit un politique. C'est aussi, quelquefois, ça un mélange de personnel et d'intellectuel. Oui. Ensuite, je te confierai que pour ce livre, donc le pessimiste joyeux, qui est paru la semaine dernière chez Fayard, j'étais très méfiant au début. J'ai refusé les premières fois parce que j'ai l'habitude de dire qu'en matière de vie perso, elle ne concerne que moi. Et pour ce qui est de mes idées, je les exprime dans d'autres livres. Mais Laurent réussit à me convaincre de l'intérêt, à tout le moins, d'un livre qui retrace, appelons ça, en fait, à partir d'une expérience personnelle qui permet de parler du rapport du Québec aux Français, du rapport entre le Québec et la France, de revenir sur les travaux que j'ai mis jusqu'à présent qui ont peut-être une certaine pertinence pour éclairer des tendances de fond aujourd'hui, là, le rapport aux libertés, à l'identité, aux cultures, à la culture, à la transmission dans le monde occidental. Donc, je ne parle de ce livre qu'avec un peu de gêne parce que, comme je dis, je suis pas monsieur introspection, mais à travers ça, c'est l'occasion, je crois, de réfléchir à des sujets qui dépassent mon petit nombril.
C'est très, très intéressant. Pour vrai, moi, je plonge dedans. Là, j'ai passé le bout de ton enfance où tu parles de ta mère, tu parles de ton père. C'est du nouveau. Tu parles jamais de ça dans ce qu'on t'entend.
Oui, mais pas.
À la Joute ou à CNews, évidemment, tu parles pas de ça. Tu parles d'actualité brûlante, mais on apprend beaucoup de choses.
C'est l'occasion de parler d'un certain Québec, peut-être. C'est-à-dire que, tu sais, mon père, ma mère viennent du monde d'avant la Révolution tranquille. Ils sont demeurés fidèles à l'ancien Québec tout en embrassant le nouveau. Oui. C'est une occasion de réfléchir à ce qu'il y a de la continuité dans l'histoire de notre Québec. On a quelquefois l'impression que tout a commencé en 60, tout ce qui était là avant méritait pas de survivre. On a quelquefois l'impression de rien comprendre à notre histoire. Je pense que l'histoire des individus éclaire l'histoire collective, tout comme l'histoire collective éclaire l'histoire des individus. Puis par ailleurs, je pense que c'est une tâche nécessaire et légitime et heureuse que de rendre hommage à ses parents dans l'existence. Je ne suis pas du camp de l'ingratitude en la matière.
Puis t'étais très touché quand tu parles de ta mère qui, à un moment donné, était très malade, mais voulait prendre soin de toi quand même. Tu rends hommage à ton père, puis on t'appelait Petit Serge parce que tu ressembles visiblement à ton père. Le côté explosif, peut-être que tu le tiens de ton père, et au-delà de l'érudition et des livres et tout, je trouve ça intéressant. Vous alliez au dépanneur acheter des revues françaises. C'est vraiment là que tu as pris la piqûre de l'amour de la France, peut-être, hein?
Oui, je pense que, tu sais, chez les Québécois, depuis toujours, en fait, il y a une tradition francophile. Il y a un pôle américanophile chez nous, et il y a aussi un pôle francophile. Oui. Et moi, je suis le pôle canadienophile, je le connais moins. Mais le pôle francophile, c'est normal, c'est que le Québec, laissé en Amérique, peut avoir l'impression d'être une petite nation oubliée de l'histoire, avec une langue provinciale que personne parle, avec une espèce de... comme si notre existence était un fardeau. Et la France, c'est toujours une manière de se rappeler, premièrement, qu'on participe à une civilisation qui nous dépasse, premier élément, que notre langue est une des grandes langues de l'histoire universelle, qu'à partir de cette langue-là, on peut participer au monde, que la France est pour nous, comme je dis, plus que des cousins, mais des frères, c'est aussi un allié, c'est important en politique. Et puis par ailleurs, je pense que quand la vie intellectuelle française est une vie, j'ai fait une partie de la vie intellectuelle française est une vie particulièrement riche parce qu'elle ne se contente pas d'additionner des réflexions sur le quotidien, elle cherche à penser l'époque, c'est-à-dire elle cherche à comprendre dans quelle époque on est en ce moment, quel est le sens des événements que nous traversons. Donc c'est pas une vie intellectuelle strictement enfermée dans l'université avec l'expertise des uns contre l'expertise des autres, c'est pas non plus une vie comme on a trop souvent au Québec avec une obsession aliénante du seul quotidien. C'est l'idée qu'on va chercher à comprendre ce qui nous arrive collectivement. C'est toujours ce qui m'a passionné dans la vie intellectuelle. Puis c'est l'occasion. La France nous permet, de ce point de vue, de le faire aussi un peu pour chez nous.
Dans ces entretiens-là, question pertinente, combien de bouteilles de vin?
Ah, beaucoup, beaucoup. Alors là, il y a trois éléments qu'il faut ajouter. D'abord le vin, ensuite le fromage, oui, ensuite les pâtés ou le saucisson, qui sont tout autant de preuves, me semble-t-il, de l'existence de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, ça, parce que Laurent, tu as tout à fait raison de le dire, c'est un ami depuis des années, et nous savons tous les deux, comment dire, nous célébrer les plaisirs de table, donc dans ces entretiens, je crois que lorsque Laurent a fait la première retranscription, il devait y avoir des moments où nous étions dans l'enthousiasme, disons ça comme ça, l'enthousiasme du verre de plus. L'enthousiasme, non pas du verre de trop, mais le verre de plus. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours énervé, c'est l'espèce de néo-puritanisme québécois. Tu sais, cette espèce d'idée qu'on va s'exciter à soir, on va se prendre un Perrier. Alors, moi, j'ai rien contre le Perrier, loin de là, mais cette espèce d'existence étouffée, cette existence faite de kombucha, de lentilles, de quinoa, cette existence sans excès. Je me rappelle Mario Roy, qui est un journaliste à la presse qui est mort il y a quelques années, qui est un type absolument formidable, puis c'était vraiment un bon vivant, me disait que pour lui, il avait compris que la décadence avait commencé au journal La Presse quand les jeunes journalistes, sur l'heure du midi, plutôt que de prendre un cognac, avaient commencé à faire du jogging. Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de vérité là-dedans. Moi, j'ai toujours dit, j'aime ce qui déborde, et je pense que c'est une partie, en fait, si un mot résume ses entretiens avec Laurent, c'est l'idée du banquet. C'est-à-dire, même quand le monde s'effondre, même quand ce à quoi on tient politiquement, culturellement, se décompose, le plaisir de l'amitié, le plaisir du banquet et le plaisir de combattre l'absurdité qu'on a devant nous, mais le combattre le verbe haut puis sans jamais se coucher, c'est une manière d'habiter le monde avec une vraie joie, tout en se disant que ce sera encore mieux de gagner.
Donc, l'ivresse est un moyen de passer au travers, hein, québécois.
Oh oui, mais l'ivresse, c'est le bon vin, le fromage et tout ça. Ensuite, bon, ne soyons pas des idiots qui au point de nous pacter, pas être capable de nous réveiller le lendemain. Mais moi, je considère que le verre de plus, qui est le verre des confidences tardives, le verre de plus, qui est le verre où on se dit finalement ce qu'on n'a pas osé dire, verre est un verre absolument essentiel. Alors là, si nos amis d'Éduc'alcool m'écoutent en ce moment, et on se dit, oh, scandaleux, je leur dis, mes chers amis, prenez un verre aussi, ça vous fera du bien.
Dans ces entretiens-là, est-ce qu'ils ont été enregistrés? Parce que ça semble être la collection d'un long podcast. Un podcast qui en amène un autre. C'est un peu ça, dans le fond, les longues discussions.
C'est une série d'entretiens, oui, absolument, qu'on a été enregistré. Ensuite, pour tout te dire, la première version faisait environ 650 pages. Et je considère que ma vie aussi passionnante soit celle de mon
propre point de vue. Vous avez coupé ça à moitié.
Ah oui, quand même. Non, on a retravaillé. Puis ensuite, c'est Céphine Calcraut qui le disait dans son livre « L'ingratitude », un livre de 1999, on n'écrit jamais aussi bien, on ne parle jamais aussi bien qu'on écrit. Et je pense que la meilleure manière de rendre un texte qui a d'abord été prononcé, c'était ensuite de reprendre le tout et de le réécrire convenablement sans trahir par ailleurs l'oralité d'origine. C'est-à-dire sans trahir le fait que c'est d'abord une conversation, donc il n'y a rien qui est ajouté sur le fond des choses quand on a réécrit, mais c'était l'occasion de clarifier, sinon il y avait beaucoup trop de dissertations, de digressions, que dis-je, puis au fil du texte, il y avait beaucoup trop de « tu me sers un autre verre », oui, « ah, je pense qu'il y en a une autre bouteille, on a-tu le whisky ?» Donc, à un moment donné, il fallait quand même être capable de civiliser un peu tout ça. Je crois qu'on l'a fait.
C'est quoi ton vin ces temps-ci, là? Tant qu'à clore la discussion sur le vin, c'est quoi?
Alors, c'est très particulier, ça dépend des moments. Mais mon premier réflexe pour le déjeuner, comme on dit en France souvent, je prends souvent un Sancerre rouge parce que c'est tout léger et ça permet de traverser la journée sans trop de soucis. Ensuite, le soir, ça dépend véritablement de ce qu'on prend. Mais bon, le Gevrey Chambertin est absolument formidable, mais c'est pas donné non plus. J'aime le Châteauneuf du Pape, le Gros Hermitage. En fait, j'aime beaucoup de choses, soyons honnêtes.
OK, parfait. Et dans tes confidences intimes, est-ce que tu t'es mis une limite? Parce que là, j'ai pas fini le livre, je te l'avoue. Je suis dedans. Par exemple, parler de ta conjointe
justement. Eh ben, je l'ai mentionné une fois parce qu'il aurait été inconvenant de ne pas le mentionner. Ensuite, j'ai toujours le souci de ne pas l'exposer. C'est-à-dire qu'elle a sa propre vie.
Carrément qu'on voit maintenant CNews également, là.
Oui, voilà, non, elle a sa propre carrière. Une carrière tout à fait remarquable. Tout à fait. Elle a une carrière qui m'impressionne et je n'aurais pas la tentation de m'emparer de sa vie le mode de la digérer. Donc, je pense que je l'ai mentionné parce qu'ils ont tenu quelqu'un qui a eu un aussi grand rôle dans ma vie. Mais ensuite, je ne voulais pas confisquer son existence et en faire simplement un morceau de la mienne. Donc, j'ai pas été trop loin là-dessus.
Très bon. Parlons Radio-Canada. Tu as écrit un post en fin de semaine. Et je pense que tu t'es régalé. Il y a deux choses là-dedans. Réglons le cas d'Olivier Niquette d'abord. Olivier Niquette qui abuse et qui s'acharne. mais sans donner rien en retour. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de contexte. C'est juste bâcher pour bâcher. Qu'est-ce que t'en dis?
Je pense qu'il est juste temps de parler franchement à propos de ce personnage. C'est un petit insignifiant. Fondamentalement, Olivier Niquet, qu'est-ce qu'il fait depuis des années? Il prend des extraits décontextualisés de telle ou telle personne, généralement à droite, parce qu'il ne les aime pas. Ensuite, l'idée, c'est de faire rire en présentant sur le mode ridicule les extraits décontextualisés qu'il présente. Et puis donc ça, bon, à rire qu'il le fasse. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Des gens lui répondent. Et là, soudainement, il se victimise. Soudainement, il se présente comme la grande victime d'une campagne de salissage. Hey, mon garçon, on se calme, OK? On ne peut pas cracher, dégobiller au visage de tant de gens pendant tant d'années. Puis soudainement, se mettre à pleurer puis à pleurnicher publiquement en disant, oh là là, on me critique, on m'attaque, mais maintenant, je suis une victime. Un instant, là. C'est un jeu qui se joue des deux côtés. Puis ensuite, comme je dis, c'est un garçon plutôt insignifiant, dans une émission plutôt insignifiante. Donc, c'est d'ailleurs qu'ils sont arrivés un peu en fin de parcours, en soyons honnêtes, c'est-à-dire qu'on les regarde aller, ceux-là, c'est plate. Je dis pas qu'ils ont pas déjà eu du talent. Je dis que ceux qui ont du talent là-dedans ont fait autre chose. Puis lui, c'est comme le dernier de la bande qui survit sur le mode. Il cherche désespérément à exister avec ses extraits, ses blagounettes. Je pense qu'il serait en droit de faire autre chose de sa vie. Enfin, qu'il fasse bien ce qu'il veut de sa vie, mais qu'il cesse de pleurer quand les gens lui répondent, alors qu'il a donné des claques et des claques et des claques à tout le monde pendant des années. Je trouve que Rémi Villemur a fait un très bon post d'ailleurs sur Facebook pour lui répondre, et ça mérite d'être mentionné. Villemur a simplement dit, regarde, t'as passé ta vie à chercher à humilier tout le monde. Et tout là, tu te caches derrière dans les jeux de la radio-télévision fédérale. Au moins, assume, mon garçon, que de temps en temps, on te répond.
Et moi, mon point aussi là-dedans, c'est de constater qu'il y a une décision de gestion là-dedans. Il y a des gestionnaires qui, année après année, renouvellent les contrats, donnent des promotions, les maintiennent aussi. Ils ne fonctionnent pas en vase clos. Donc, c'est une décision du diffuseur public de
c'est
les
la ligne
utiliser.
Éditoriale.
Ben, c'est ça. De les utiliser pour deux choses. Escouade de fier à bras pour casser les jambes des compétiteurs, nommément TVA à Montréal, si on parle de la télé, Québécois en général, et la radio privée de Québec, mais surtout d'évangéliser le bon évangile woke. Tout ce qui est à droite, c'est mauvais. Tout ce qui est à gauche, ben, c'est le camp du bien. À répétition. Mais ça, il y a une décision sensée de la société, là.
Mais c'est comme en France là-dessus. Hein. C'est-à-dire il y a un vrai débat en France sur le rôle des humoristes sur la radio publique notamment. Et les humoristes pensent tous du même bord, ils ont toutes les mêmes orientations idéologiques, ils sont tous entre 50 shades of left, quoi, c'est-à-dire 50 nuances de gauche, et ça tire sur sens. Bon, à un moment donné, les gens se disent, est-ce que c'est légitime d'avoir cette espèce d'éditorialiste militant déguisé en humoriste qui sont toujours en train de cracher sur le même monde? Donc ça, à un moment donné, c'est quand même globalement de l'argent public. Donc, c'est ton argent, le mien, c'est celui de tous ceux qui contribuent par taxes et impôts au gouvernement pour financer finalement une petite clique de fiers à bras qui se font passer pour des rieurs et qui sont même pas très drôles. Donc, à un moment donné, il n'est pas inutile de dire que si on veut conserver une radio-télévision d'État, eh bien, qu'il se centre sur l'essentiel, la culture, la vraie culture, la culture exigeante, l'information s'il le faut, mais certainement pas ces espèces de fiers à bras du progressisme mondain. Ça commence c'est franchement énervant.
C'est la même chose avec Marie-Louise Arsenault. Et là, c'est là que je dis que les charges à fond de train du PQ, à un moment donné, Bernard Landry avait parlé de la propagande de Radio-Canada. C'est parce que là, on est dans un contexte préélectoral. Mais j'ai dit à quelqu'un hier des hautes instances du PQ, j'ai dit là, je sais pas, vous avez peut-être allumé et informé le DGEQ d'apporter une certaine surveillance à Radio-Canada parce que la société va faire campagne en faveur de Québec solidaire, là. Et c'est commencé,
oui, et du Parti libéral, soyons honnêtes.
Oui, aussi. Mais l'évangile woke, c'est très, très... Arsenault est plus QS, là.
Oui, mais moi, pour moi, il existe une telle chose que le PLQS. C'est-à-dire que globalement, c'est la gauche fédéraliste woke, et puis entre Milliard et puis QS, je parle plus globalement, auparavant Anglade, il y a une forme de progressisme anti-national, anti-identitaire.
Mais j'ai toujours dit que le Parti libéral, c'était QS avec du beau linge.
Oui, c'est ça, c'est à peu près ça, mais sauf il fait autrefois, je me rappelle d'un député qu'on avait surnommé Monsieur Tip-Top, mais bon, laissons ça de côté. Mais non, cela dit, je pense que dans le cas d'Arsenault, c'est l'autre pôle du progressisme médiatique. Donc là, ça passe pour le lieu intelligent, ça passe pour le lieu de la sophistication culturelle. Dans les faits, c'est un lieu d'un progressisme militant, d'un gauchisme caricatural. Puis là, ils invitent, bon, il y avait un prof de philo hier ou avant-hier, quelques jours, qui fait une espèce de longue tirade contre la maternité, contre... Non, mais c'était lunaire d'entendre ça.
Oui.
Et là, parce que Guillaume Rousseau se permet ensuite de faire un commentaire critique d'une minute, là, ça passe pour équilibrer. Non. On comprend où est la ligne éditoriale, encore une fois. Mais c'est chez Arsenault. C'est presque un état dans l'état, on l'aura compris. Ici, c'est une militante depuis des années. On lui reconnaît un certain talent. Tant mieux pour ceux qui reconnaissent ça. Moi, je vois une militante là-bas qui ne se gêne pas pour pratiquer des techniques d'intimidation envers tous ceux qui ne pensent pas dans le progressisme prêt-à-penser qui domine la société d'État. Bon, on connaît ça par cœur, mais là, je pense qu'il est temps de nommer ce pouvoir-là. Parce que pendant longtemps, beaucoup se taisaient de peur de se faire attaquer ou dans l'espoir de se faire éviter. Je pense qu'il est temps simplement de ramener ça à l'ordre. Ou s'ils veulent garder Arsenault, très bien, mais qu'ils trouvent l'équivalent, à droite, entre guillemets, d'une émission culturelle équivalente. Donc là, qu'ils nomment, j'en sais rien, moi, David Santarossa, qu'ils nomment Rémi Villemur, qu'ils nomment Étienne-Alexandre Beauregard, donc des jeunes intellectuels qui montent, qui leur donnent une place équivalente dans la société d'État, qu'il n'ait plus le monopole du crachoir pour les progressistes officiels, tout comme dans tant d'émissions de débat à Radcam. Trois fédéralistes, un souverainiste, à un moment donné, ça commence à être une blague, ça. Ça commence à être lassant, cette espèce de propagande permanente. Ensuite, je dis, il y a plein de monde de talent à Radio-Canada. Ça, je veux le dire vraiment, c'est pas seulement une formule de rhétorique. Absolument. Il y a des gens de talent, il y a des gens de qualité, il y a des gens que j'estime, il y a des gens avec qui je peux être en désaccord, mais ils font du bon travail. Je prends Gérald Filion, par exemple, j'ai de l'estime pour lui, il fait du vrai, je suis pas toujours d'accord, mais il fait du vrai travail. Bon. Mais, ouais, puis Bovet, Sébastien Bovet, fait du vrai travail. Mais une fois que c'est dit, il y a, dès lors qu'on sort de des figures fortes de l'information sur cette chaîne-là, on tombe dans l'espèce de propagande. De l'autre côté, Anne-Marie Dussault. On a compris la propagande d'Anne-Marie Dussault. C'est la voix autorisée du régime. Donc, à un moment donné, il est temps de nommer ce pouvoir que personne n'osait nommer parce qu'on désirait coopter ou on le craignait. Il est temps de nommer ce pouvoir exagéré, financé à même les fonds publics, pour diaboliser une bonne partie de la société québécoise.
Mathieu, merci. Bonne semaine.
Au grand plaisir. Bye-bye.